Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, on a le plaisir d'accueillir ce soir Pauline Boyer. Elle fait donc l'honneur et l'amabilité de venir à notre rencontre et donc de répondre si aimablement à notre invitation. Alors Pauline Boyer, je vous présente très rapidement. Vous êtes militante, vous êtes activiste, dites-vous, activiste climat engagé, avec au sein de deux associations, Alternatiba et Greenpeace. Et vous dites que suite à une prise de conscience de l'urgence climatique en 2015, on va peut-être revenir là-dessus dans la discussion, vous êtes devenue coordonnatrice d'action de désobéissance civile et formatrice à l'action non violente au sein de l'association Action non violente COP21. Vous êtes aujourd'hui chargée de campagne sur la transition énergétique pour Greenpeace France. Et vous avez publié en mai 2022, donc cette année, en collaboration avec Johan Nassens, ce petit ouvrage que je vous recommande, Manifeste pour la non-violence, dans lequel, je le dis en un mot, vous présentez la non-violence non seulement comme une éthique, un ensemble de valeurs, comme une politique, mais aussi et surtout, et je trouve que c'est ça qui est très intéressant à découvrir, comme une stratégie d'action pour... non seulement essayer de penser d'autres imaginaires, mais essayer surtout de résoudre des problèmes très concrets qui se posent aujourd'hui dans les temps sombres que nous vivons. Et vous êtes depuis peu directrice de publication donc, au sein de la revue Alternative Non Violente. Voilà, je me permettrai juste un petit mot d'hommage. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous connaissent le nom de Jean-Marie Muller. Peut-être que vous le connaissez. Jean-Marie Muller était... Orléanais, il habitait pas loin d'ici, à Chanteau, philosophe, militant, engagé, c'était l'une des grandes voies de la non-violence. Il nous avait fait le plaisir de venir à plusieurs reprises à notre rencontre auprès de nos élèves. Et je pense que à la fois la philosophie, l'ancrage militant de Jean-Marie Muller infuse votre pensée et finalement infuse également la série de vos engagements. On est très très heureux de vous entendre ce soir et de vous recevoir.
Merci. Ça marche.
Bien marché. C'est bon. Bien comme ça.
Ouais. Comme ça, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je crois que ça coupe, non ?
Prendre le micro. N'hésitez pas à bien prendre le micro comme ça parce que sinon ça va faire des.
Il a l'air mieux quand même. Merci beaucoup à Philomania pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir avec vous. Merci pour la présentation. Et effectivement, ça fait un an à peu près que Jean-Marie Muller nous a quittés. Il a écrit de nombreux livres sur la non-violence, était spécialiste de Gandhi. Et c'est un des premiers livres que j'ai lu quand besoin de commencer à mettre des mots sur ce que je vivais dans Alternatiba, dans les actions de désobéissance civile, parce que j'ai abordé la non-violence vraiment sur le terrain en passant à l'action concrète. Donc, pour commencer cette soirée, je vais vous poser une question. Alors, quel est le point commun entre des femmes indiennes qui enlacent des arbres, une prière punk dans une église orthodoxe russe, un peu de sel séché dans le creux d'une main, des millions de pieds qui foulent le sol, des corps allongés à terre bloquant d'immenses machines, des portraits présidentiels décrochés de murs de mairie, des lettres peintes sur des seins nus, des femmes iraniennes dans la rue brandissant leurs foulards, cheveux au vent, des silhouettes blanches dans une mine de charbon, 343 noms de femmes inscrites sur une tribune déclarant avoir avorté, des adolescents et adolescentes qui font la grève scolaire et des échanges de semences paysannes.
De vouloir aller contre la normalité imposée, politique ou religieuse.
Tout à fait. Et un mot générique peut-être qui qualifie tout ça ? Action non violente, désobéissance civile. Donc la désobéissance civile, c'est un des moyens d'action non violente dans tout le panel énorme qu'il y a, mais pas des moindres, puisqu'il permet de bouleverser les consciences et de mettre la lumière sur une injustice, des injustices. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est de vous emmener sur un chemin qui est celui des luttes non violentes. On va aborder déjà qu'est-ce que c'est que la non-violence, quelle est la limite entre la non-violence et la violence, puisqu'elle est difficile parfois à décider. Et ensuite, on verra qu'est-ce que c'est que la justice climatique et différents exemples de luttes non-violentes. Donc on va avoir 45 minutes où je vais un peu parler, et ensuite on pourra avoir le temps d'en parler ensemble avec vous. Donc la non-violence, quand on parle de non-violence, on pense à Jean-Marie Muller, n'est-ce pas ? Mais aussi à Gandhi, à Martin Luther King, à Nelson Mandela, et on pense un peu moins aussi à toutes les femmes qui ont participé à ces luttes, comme Ogari Tunan, qui est une figure du mouvement non-violent libanais, puisqu'elle a créé le premier mouvement libanais qui s'est battu notamment contre la peine de mort. Madonna Thunderhawks, qui est l'une des fondatrices de l'American Indian Movement, donc qui se bat pour les droits des peuples autochtones et les droits à la terre aujourd'hui notamment sur le Standing Rock, si vous avez entendu parler, qui pour empêcher la construction du pipeline Keystone XXL. De nombreux mouvements de femmes qui ont manifesté dans les années 70 contre les essais nucléaires, le nucléaire civil. Donc la désobéissance civile, elle est pratiquée depuis des siècles. En 1822, il y a une figure de la désobéissance civile qui est née dans une plantation de Maryland qui s'appelle Harriet Tubman et qu'on appelait la Nouvelle Moïse parce qu'elle s'est échappée de sa plantation pour aller en Pennsylvanie, à un état où l'esclavage était aboli. Et elle est revenue chercher plus de 300 personnes sur les qu'elle a ramenées en fait en Pennsylvanie. Donc elle a fait tout ça à la barbe des chasseurs de primes qui bien sûr allaient essayer de l'attraper. Et puis bah il y a aussi bien sûr Olympe de Gouges qui elle s'est battue toute sa vie contre l'esclavage, contre la peine de mort et pour les droits des femmes et qui a écrit la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Tout ça, c'était aussi la désobéissance civile, et d'ailleurs, elle a fini sur l'échafaud. Donc, la non-violence, c'est un projet politique. Je vais me battre avec ce micro, mais de manière non-violente. La non-violence, c'est un projet politique pour faire émerger une société soutenable et juste. Donc, c'est à la fois une exigence philosophique, une manière de voir la vie. Ce sont des nouvelles lunettes pour penser la société, pour penser les interactions entre les humains, entre le vivant. C'est une exigence de respect de la dignité des êtres humains et du vivant sous toutes ses formes. Et c'est aussi une stratégie de l'action non violente qui, si elle est bien utilisée, peut être très efficace. Donc, en tant que principe philosophique, c'est une quête de sens, une nouvelle manière de voir le monde. C'est aussi le refus de la violence, le refus de légitimer toute forme de violence en affirmant que l'exigence de la non-violence fonde et structure l'humanité et les êtres humains. Donc elle implique différentes choses, elle implique la connaissance et l'apprivoisement de la maîtrise du désir de violence qui peut être en nous. Et c'est pas la négation de la violence, c'est sa prise en compte. C'est la prise en compte que la violence est insupportable pour notre humanité. C'est donc une opposition active à la violence. C'est là où on distingue la non-violence est souvent enveloppée de préjugés. On pense que la non-violence, c'est ne rien faire, mais en fait, c'est tout le contraire de la passivité. La non-violence, elle enjoint à une action. C'est une opposition active à la violence, une acceptation de prendre un risque justement pour faire face à la violence et déconstruire ce qui l'engendre. C'est donc avoir le courage d'y faire face. Et c'est le nom de non-violence, c'est le nom à la violence. Et c'est un nom de résistance. Donc, dans les stratégies de... Ça, j'y reviendrai après un peu en illustrant d'exemples parce que ça peut paraître un peu abstrait. Mais du côté donc, des stratégies de lutte non-violente, ça consiste en la mise en place d'un rapport de force. Un rapport de force pour à la fois persuader nos adversaires qu'on va identifier ou les personnes dont on attend un changement d'accéder à nos demandes. Et en même temps, la force de contrainte, donc c'est la force de persuasion et la force de contrainte qui va être utilisée parce que bien souvent, il ne suffit pas de demander pour réussir à ce que notre adversaire accède à notre demande. Si on veut qu'une banque, par exemple, ne finance pas un projet de mine de charbon ou un projet d'extraction pétrolière, le fait de lui envoyer une lettre ou d'aller la voir pour lui demander de ne pas financer ce projet parce que c'est pas bon pour notre avenir et pour l'humanité, ça ne va pas suffire. Mais par contre, et donc c'est pour ça qu'on est obligé de réfléchir à comment est-ce qu'on met en place un rapport de force par rapport à, en utilisant différents moyens d'action qui sont pour la plupart légaux. Et ça peut être des pétitions, des conférences de presse, de la sensibilisation des clients, une manifestation, et ça peut aller jusqu'à des actions de désobéissance civile, justement pour mettre la lumière sur ces agissements. Et dans toute la construction des stratégies de lutte non violente, on a à cœur de trouver où sont les leviers d'action, donc où sont les piliers du pouvoir de l'adversaire que nous avons, pour essayer de trouver les failles les plus dans lesquelles on va pouvoir justement agir pour réussir à faire basculer le rapport de force en notre faveur. Donc agir, s'interposer, aider avec sa voix, son esprit, son corps, c'est donc être prêt à prendre des risques et à se mettre en danger pour mettre fin aux injustices et construire une société respectueuse du vivant. La définition de la non-violence de Judith Butler, qui a écrit l'année dernière le livre « La force de la non-violence », est intéressante. Elle dit « La non-violence est une pratique de la résistance qui devient possible, sinon obligatoire, précisément au moment où faire violence semble le plus évident et le plus justifié. » C'est très difficile, je trouve, d'avoir une définition de la non-violence, et je trouve que celle-ci est particulièrement pertinente. C'est donc une pratique qui non seulement arrête un acte violent ou un processus violent, qui nécessite une action soutenue avec de l'agressivité. C'est pareil, on confond souvent agressivité et violence. On pense que c'est la même chose. Or, pour passer à l'action, pour sortir de sa zone de confort ou de ses habitudes, on a besoin de faire appel à l'agressivité qui est en nous pour se mettre en action. Après, c'est la façon dont on passe à l'action et dont on transforme sa colère et son agressivité par la pratique de la non-violence qui va nous permettre d'en faire une force créatrice, déterminée, pour aller créer ces rapports de force et gagner des victoires. Judith Butler parle également donc Einstein parlait de pacifisme militant et elle parle de non-violence agressive. Parce qu'on a l'impression que c'est un oxymore, mais en fait non, ça va ensemble et c'est juste peut-être même des termes redondants. Tellement on a besoin aussi d'agressivité pour être dans la lutte. L'utilisation de la violence, c'est aussi l'utilisation de la non-violence pour faire face à la violence, c'est aussi se sortir du système actuel, du système que l'on combat, qui a pour défense la violence. Donc la violence, c'est quoi? Parce que c'est pareil, c'est une notion qui est compliquée. Souvent, quand on donne des formations avec ANV COP21, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par un débat mouvant avec des cas qu'on énonce. Alors, est-ce que dans un immeuble à côté, il y a une famille de personnes migrantes qui s'est installée alors que l'immeuble est vide et la police arrive, les déloge et des gens commencent à jeter des tomates sur la police. Est-ce que vous trouvez ça violent? Est-ce que vous trouvez ça non violent? Et ça, c'est toujours un peu les débats parce que les notions de violence et non-violence, elles dépendent vraiment du contexte, enfin, elles dépendent souvent du contexte et de soi, donc c'est très subjectif, de nos histoires personnelles, etc. Mais on peut quand même se mettre d'accord sur des choses fondamentalement violentes dans notre société. Et tout ce qu'on voit passer dans les médias ne reflète pas forcément ce qui est le plus violent, parce qu'on peut repartir de la vision étriquée qu'on voit de la violence à travers, par exemple, la couverture du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient, bien sûr, extrêmement violents dans tout ce qu'on voyait à la télé. Or, c'était déjà une infime partie du mouvement qui était relayée, alors que toutes les expérimentations et toutes les réunions qui se sont tenues sur les ronds-points avec des gens qui sont sortis de chez eux, qui ont créé des liens, qui ont parlé de politique, qui sont passés de la taxe carbone à l'écologie, etc. Ça n'était pas relayé par les médias. Donc on a une instrumentalisation aussi dans les médias de certaines pratiques qui sont perçues comme violentes et qui cachent tout ce qu'il y a derrière, tous les mouvements qu'il y a derrière. Donc la violence, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique, économique, etc. La violence aussi aujourd'hui dans notre société, c'est quoi? C'est de laisser dormir des gens dehors. La violence, c'est quand un président de la République dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. La violence aujourd'hui, c'est 12 millions de personnes qui vivent en situation de précarité dans un pays qui pourrait largement prendre en charge la rénovation massive des logements. C'est aussi être obligé d'aller au resto du cœur pour ne pas rester l'estomac vide. Ce sont des petites humiliations quotidiennes, sexistes, racistes, de classe, de discrimination, de tout ordre. Donc la violence, elle est structurelle et ce sont des sociétés qui ne répartissent pas leurs ressources pour donner à toutes et tous de quoi subvenir à leurs besoins fondamentaux, qui sont de la nourriture, qui ne soit pas contaminée par des pesticides, de la nourriture tout court d'ailleurs, un logement, des soins, une place dans la société, l'accès à l'éducation, à la culture, le droit à disposer de son corps. Tout ça, ce sont des besoins fondamentaux du corps et de l'âme qui devrait être accessible à tous les êtres humains. Aujourd'hui, on vit dans une société où les inégalités se creusent, où le modèle économique capitaliste, donc qui est basé sur le fait que des personnes, une faible poignée de personnes s'enrichissent, sur le creusement des inégalités, sur le non-partage, dans l'individualisme plutôt que dans la solidarité et tout ce qui génère un peu du mal-être, des maladies, de la division, de la haine. En gros, la violence, c'est tout ce qui retire aux êtres humains leur dignité et leur place dans la société. Judith Butler, je la cite de nouveau, elle s'interroge justement sur comment comprendre les modalités de la violence auxquelles il faut s'opposer. Et donc, elle revient à ces questions fondamentales de qu'est-ce qui fait qu'une vie est précieuse? Qu'est-ce qui explique les inégalités avec lesquelles les vies sont évaluées? Et comment est-ce que nous pouvons commencer à formuler un imaginaire égalitaire qui fasse partie de notre pratique de la non-violence? Dans le postulat commun, elle interroge à la base quelles sont les vies qui doivent être sauvegardées et quelles sont les vies qui sont considérées comme potentiellement pleurables. Donc elle dit ça, potentiellement pleurable, c'est parce que pour défendre quelque chose, il faut le considérer en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant. Il faut l'aimer pour avoir envie de le défendre. Or, dans les sociétés, on a des pouvoirs qui laissent mourir les autres. Et donc, elle interroge jusqu'où on va dans l'analyse de la société, dans notre analyse de comment est-ce que nous aussi, on met en œuvre dans notre manière d'agir, dans quel biais on a, nous, en réfléchissant à nos manières d'agir. Donc, agir, pourquoi faire ? Aujourd'hui, donc, on a les slogans qui sont très... je veux dire, si on repart il y a 5 ans, il y a même en 2015, il y a eu la signature de l'accord de Paris. En 2015, on ne parlait pas encore de dérèglement climatique dans les médias comme on en parle aujourd'hui, même si c'est largement insuffisant et on le voit, mais avant, c'était même pas acquis. En 2018, il y a eu des mouvements citoyens, il y a eu Greta Thunberg, il y a eu toutes les marches climat, les adolescents et adolescentes qui ont commencé à faire grève et à passer un message fort. Si bien qu'aujourd'hui, le climato-scepticisme, c'est vraiment à la marche. Et tout le monde est obligé, les gouvernements, les personnalités politiques sont obligés de dire oui, on va faire quelque chose pour le climat, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc on est dans une accélération des prises de conscience, mais pour l'instant, depuis la signature de l'accord de Paris, la somme des engagements des États et des actions concrètes des États nous mène sur une trajectoire d'augmentation de la température de la Terre de 3 degrés et quelques d'ici à la fin du siècle, ce qui n'est pas du tout en respect de l'accord de Paris, puisque l'objectif, c'est 1,5 voire 2 degrés. Donc on est dans ce monde-là où on a le dérèglement climatique avec des impacts qui se font ressentir, un effondrement de la biodiversité. On forme encore aujourd'hui, en France et dans beaucoup de pays, des étudiants et des étudiantes à entrer dans un système qui est complètement périmé, et avec aujourd'hui des étudiants et des étudiantes qui prennent la parole quand ils sont diplômés pour dire qu'ils ne veulent pas rentrer dans le système, qu'ils vont aller, qu'ils vont devenir maraîchers, qu'ils vont s'engager dans la résistance, etc. Et donc aujourd'hui, il y a des déclics de conscience, mais les solutions et la manière dont on pourrait réorganiser la société n'est toujours pas accessible à tout le monde, parce qu'elle n'est pas portée correctement par, en tout cas, le gouvernement en place et par énormément de personnalités politiques qui voient plus leur intérêt électoraliste que des mesures concrètes de changement à la racine du système. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Donc, nous, on pense que une dictature verte, ça ne serait pas la solution. Parce que on sait très bien qu'il y a plein de toute façon, une société qui est vivable et enviable ne sera qu'une société démocratique, qu'il ne suffit pas d'avoir des lois et des règles pour qu'elles soient appliquées. L'égalité homme-femme est depuis un certain temps inscrite un peu partout, et c'est pas pour ça que c'est respecté partout, loin de là. Donc on a une nécessité de transformation de la société en emmenant le plus de monde possible dans la nécessité de la transformation et dans la compréhension de la transformation radicale, c'est-à-dire de nos modes de vie. Si on s'intéresse à tout ce que je viens de dire, que ce soit les violences faites aux femmes, que ce soit la perte de la biodiversité, etc., quand on creuse à l'origine, on retrouve toujours des systèmes de domination, de colonisation des terres, de colonisation des corps. Et c'est là qu'on va aller creuser dans les luttes non violentes, puisque la non violence a pour objectif justement d'aller jusqu'au bout, de nous faire repenser notre manière de vivre. Et j'aimerais citer donc Maria Mies, qui est une féministe qui déclarait lors d'un séminaire sur la nécessité d'une nouvelle vision écoféministe. Dans les années 60 jusqu'au début des années 1980, au moment où nous avons développé notre cadre théorique, la plupart des féministes savaient encore que des enjeux comme l'exploitation du tiers-monde, les problèmes écologiques, le militarisme et la paix l'économie étaient des enjeux féministes. En réalité, nous considérions tous les enjeux comme des enjeux féministes. On considérait le féminisme comme le mouvement qui avait initié la question des droits des femmes. Mais il est clair que pour résoudre cette question, il fallait révolutionner le tout. Et ça, c'est une illustration de la manière dont tout est relié et la manière dont les luttes, les différentes luttes et les différents courants de lutte féministes ont aussi évolué. Et aujourd'hui, la question, c'est pas que les femmes aient une égalité sur une planète moribonde. On s'en moque d'être chef d'entreprise du CAC 40. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est d'être à égalité, mais dans un monde qui est vivable, dans un monde où on pourra élever nos enfants et leur promettre un avenir qui est enviable. Donc, la non-violence n'a de sens, n'a aucun sens sans un engagement pour l'égalité et pour défendre toutes les vies, pas seulement celles de nos proches, de notre communauté. C'est des relations d'interdépendance dont on doit reprendre conscience en tant qu'habitant ou habitante de la Terre. Et Judith Butler encore nous fait part de la nécessité de la critique de l'individualisme anthropocentrique pour développer un imaginaire de la non-violence. La question, c'est comment est-ce qu'on construit une économie du vivant qui remplace une économie de la démesure et du coup de la repenser dans ses fondements structurels, dans ses finalités. Et tout ça, quand on tire un fil, en fait, on va jusqu'à, si on parle d'économie, à repenser la question même de travail. Question qui est aujourd'hui présente et avec de multiples réponses développées notamment par ATD Quart-Monde et son projet de territoire zéro chômeur longue durée, qui part du principe qu'on peut avoir que tout le monde est employable, qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Et à partir de là, on trouve un emploi pour chaque personne. Donc on a, en gros, on a besoin d'enraciner une réflexion éthique dans un imaginaire égalitaire et équitable. Et c'est un moyen d'illustrer comment est-ce qu'on va creuser jusqu'à la racine pour changer les systèmes de domination et éradiquer la violence. Pour autant, la pratique de la non-violence ne protège pas de la violence. Quand on fait une action, notamment de désobéissance civile, on s'expose à la violence. Donc, la désobéissance civile, juste pour rappel, on part du principe que quand la loi cautionne ou engendre elle-même l'injustice, elle met en péril notre avenir individuel et collectif, sont liés, et que l'obéissance aveugle des citoyens et des citoyennes à la loi les rend complices et les rend passifs face à l'injustice. Donc, c'est la désobéissance civile, c'est un moyen de challenger les lois, de remise à niveau de la démocratie, parce que on a aujourd'hui des lois qui ne sont pas du tout adaptées aux enjeux des crises sociales, des crises environnementales et climatiques auxquelles on fait face. Et donc, l'exigence de justice est plus importante que la loi, doit être plus importante que la loi, et c'est ce qui justifie le fait de passer à l'action des obéissances civiles en l'utilisant comme un peu un poumon de la démocratie, un espace où on questionne la démocratie. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Prenons un exemple. J'ai pris l'exemple de la banque tout à l'heure. On a fait beaucoup d'actions dans les banques pour justement réussir à les faire se désengager de projets qui sont climaticides, qui détruisent l'environnement, etc. Et là, on s'expose à de la violence physique de la part des forces de l'ordre. Ça, c'est plutôt sur les gros. Disons que voilà, en, On a déjà bloqué des sommets d'industriels pétroliers avec un millier de personnes environ. Et du coup, quand on arrive là-bas et qu'on bloque physiquement l'entrée du sommet, on bloque avec nos corps. On s'expose là à la répression de la police, des CRS, à des potentielles altercations qui sont bon, compliquées avec les employés. Quand on a bloqué l'Assemblée générale de Total cette année, il y a eu de la violence verbale de la part des actionnaires envers les militants qui leur souhaitaient quasiment la mort, quoi. Enfin, c'était très, très, très violent. Et pour ça, les activistes sont formés. On fait des actions, des formations à garder une attitude non violente parce que ce qui donne la force à ce type d'action non violente, c'est justement qu'on utilise, on dénonce la violence du système ou la violence de personnes et on la délégitimise pour nous et nous, ce qui légitimise notre action. Donc ça veut dire que si on répondait à la violence par la violence, donc si on commençait à insulter les actionnaires ou à leur parler de la manière dont ils nous parlent, ça veut dire que l'image qui serait renvoyée, ce serait des gens qui se battent, enfin qui a une joute verbale absolument terrible. Si on répondait au gaz lacrymogène et aux coups de matraque par des coups, si on se défendait par rapport à la police, déjà de toute façon on perdrait. Et en plus, le message qu'on veut faire passer ne passerait pas. Hein, par exemple, au blocage du sommet pétrolier à Pau. On a comme image des militants et des militantes qui se font matraquer, qui se prennent du gaz lacrymogène par des policiers, donc des militants qui ne sont pas armés et qui ne répliquent pas, par des policiers qui défendent des pétroliers qui sont à l'intérieur d'un château en train de réfléchir à comment on va forer en eau profonde pour optimiser l'extraction d'énergie fossile. Donc il y a une image très forte qui ressort, et ça, c'est nécessaire pour nous faire passer notre message. Au temps de la ségrégation aux États-Unis, les mouvements de défense des droits civiques des Afro-Américains s'entraînaient dans les églises. Ils faisaient des actions, en fait ils allaient dans les bars qui étaient interdits aux personnes noires, ils s'asseyaient et ils étaient... envahis, entourés de gens de blancs qui leur mettaient du ketchup dans les cheveux, du café, etc. Et en fait, ils s'étaient entraînés dans les églises de soir à s'insulter, à subir ces humiliations pour ne pas répliquer, parce que les images qui ressortaient dans les journaux étaient absolument atroces, et ça a permis de faire grandir le mouvement parce que ça oblige un peu les personnes qui se désintéressent du sujet ou qui n'ont pas... voilà, à se positionner. Et ça suscite l'indignation et ça suscite le soutien et la massification du mouvement qui est parfois nécessaire pour faire avancer la lutte. C'est ce que Gandhi appelait la force d'âme de la non-violence. La non-violence, elle sert aussi à retourner la répression contre l'adversaire, donc la violence contre l'adversaire, parce que on sait qu'on s'expose à la violence, on est prêt et prête à la subir, mais il faut absolument que dans tous les cas, ce soit un coup politique pour l'adversaire. Donc, ce sont ces images qui ressortent. Ce sont, lors de procès de militants et de militantes, on utilise ces procès pour faire des procès politiques. Donc, ça veut dire que nos actions, quand on y réfléchit, parce qu'on les fait à visage découvert, donc on est sûr d'être pris à tous les coups. Donc, il faut réfléchir, quand on fait nos actions, à qu'est-ce qui va être défendable devant un tribunal et qu'est-ce qui peut susciter l'adhésion de l'opinion publique. Quand on est en procès parce qu'on a fauché des champs d'OGM ou parce qu'on a décroché un portrait du président de la République qui vaut 8,50 € et qu'on est condamné pour vol en réunion, cette disproportion est complètement aberrante. Et il fait qu'on obtient des soutiens massifs de personnes qui ne sont pas forcément militantes. Et ça permet de de provoquer aussi des déclics de conscience. Ça fait passer notre message sur, sur ce qu'on dénonce, sur l'inaction climatique du gouvernement pour les portraits, par exemple. Et c'est aussi un moyen d'interroger le rôle de la justice dans le changement de la société. Donc c'est un autre moyen de faire passer notre message. Et enfin, on peut regarder la violence, parce que donc l'État se donne à le monopole de la violence, et du coup l'utilise et nomme des actions qui sont faites par des travailleurs et travailleuses qui sont dans la rue, qui vont manifester, des actions de blocage, etc. L'État dit que nous sommes violents. Et donc pratique, enfin utilise cet espace de domination qu'il a pour discréditer toute contestation de sa politique gouvernementale. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se former à l'attitude non violente pour pouvoir contrecarrer ce mésusage de ce terme de violence qu'on nous renvoie, alors que justement, et ça c'est pas défendable devant la justice, parce que justement ce qui à chaque fois nous permet de faire entendre notre message devant la justice, c'est le fait qu'on a fait nos actions à visage découvert, qu'on est dans l'attitude non violente collective, et c'est pour ça qu'on a des cadres bien définis, parce que j'ai dit tout à l'heure que la non-violence c'était subjectif. Il n'y a pas d'atteinte d'intégrité physique et psychologique des personnes lors de nos actions. Et pas de dégradation matérielle, sauf si on pense collectivement qu'elle va servir notre lutte. La culture de la non-violence, c'est aussi, nous sommes en train de militer, c'est la manière de préfigurer le monde que l'on veut voir advenir. Donc c'est à l'intérieur de nos mouvements, comment est-ce qu'on met en place la manière dont on voudrait que le monde fonctionne déjà, c'est-à-dire sans remarques sexistes, homophobes, sans discrimination, etc. Et il y a une culture qui se développe avec aussi des règles simples. Par exemple, dans la société actuelle, ce sont toujours les hommes qui sont plus présents dans les médias. C'est une statistique, etc. Donc on pousse les femmes à être porte-parole. Dans Alternativa, par exemple, il y a plus de porte-parole femmes parce qu'on veut être aussi à contre-courant de la tendance, je ne vais pas dire naturelle, mais de la tendance du système à mettre les hommes en avant. On a des méthodes d'animation de réunion qui permettent à tout le monde de s'exprimer, qu'on soit timide ou pas, etc. On donne la parole, on distribue la parole, on a des méthodes d'animation qui permettent avec des règles toutes simples, de changer nos manières d'interagir entre nous. On a aussi des organes de régulation des conflits pour éviter, pour avoir une meilleure compréhension et une meilleure organisation commune. Et donc ça, c'est déjà dans la manière dont on milite de la remise en cause de nos schémas en prise avec la réalité, puisque avoir des idéaux, c'est nécessaire, mais les mettre en pratique et s'y confronter dans la réalité, ça permet de trouver des solutions concrètes. Et je vais finir déjà cette première partie avec quelques exemples de lutte. Donc la non-violence s'appuie donc sur une complémentarité entre la résistance au projet qui continue de détruire la vie, l'environnement, et la construction, la proposition d'une nouvelle manière de vivre, d'une nouvelle manière de faire société. Et aujourd'hui, je vais dire plusieurs exemples. On a les villages des alternatives, d'Alternativa. C'est quoi ? C'est sur un week-end, deux jours, on réunit sur l'espace public des porteurs et porteuses alternatives qui montrent comment on peut déjà vivre différemment, manger, se déplacer, etc. différemment. Ça, ça permet d'avoir des espaces d'échange entre les personnes et de montrer que une vie différente, elle va aussi être joyeuse et elle va nous apporter beaucoup de choses qu'on ne soupçonne même pas et surtout recréer du lien humain. C'est aussi parfois aller chercher nos droits sans attendre qu'on nous le donne. Au Pays Basque, il y a quelques années, des agriculteurs et agricultrices étaient au sein de la Chambre d'agriculture du Pays Basque et prônaient un mode d'élevage et de culture agricole, donc en lien avec la nature, loin des modèles industriels de la FNSEA. Mais à l'intérieur de la Chambre d'agriculture, ils n'ont pas réussi à avoir de l'espace pour prôner leur mode d'agriculture. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une chambre alternative d'agriculture au Pays Basque. Ça a été une lutte énorme avec les pouvoirs publics parce que légalement, on a le droit d'avoir qu'une seule chambre d'agriculture par région. Je crois que c'est région. Ou par département, voilà. Le président donc ils se sont constitués en association, le président a été poursuivi par le tribunal et il y a eu une mobilisation énorme autour de ça. En fin de compte, ils ont gagné parce qu'ils l'ont appelé Euskal Herria Laborantza Ganbara, qui veut dire chambre d'agriculture du Pays Basque en basque. Mais vu que la langue basque n'est pas reconnue par la France, en fait, le tribunal a lâché. Mais il y a aussi toute cette mobilisation énorme sur le terrain qui a permis de gagner cette victoire. Donc, aller chercher nos droits, résister contre les projets. Aujourd'hui, il y a un pipeline qui s'appelle ICOP, qui est le plus long pipeline chauffé du monde, que Total et une industrie chinoise veulent construire entre la Tanzanie et l'Ouganda. Donc ça, ce serait des millions de gaz à effet de serre par an qui seraient émis. C'est 100 000 personnes qui seraient déplacées en Ouganda. C'est de la faune, la flore menacée, et en particulier le lac Victoria, dont 40 millions de personnes dépendent pour leur eau potable et leur culture, pour irriguer leur culture, etc. Donc c'est un désastre sur tous les plans. Et depuis quelques mois, des activistes du monde entier font des actions, mènent des actions pour saboter le projet contre les banques, enfin envers les banques, on va dire. Aujourd'hui, il y a plus de 24 banques et 11 assureurs qui refusent de participer à ce projet. Depuis quelques mois, des activistes se relaient devant un immeuble à Londres avec cet acronyme qui s'appelle Every Single Day, pour mettre la pression aux assureurs qui sont dans cet immeuble parce qu'ils refusent d'assurer ce projet. Il y a eu des messes dites contre ce projet. Les activistes ougandais sont venus en Europe et le pape s'est prononcé contre le projet. Donc il y a énormément d'actions qui ont lieu, qui sont de l'ordre du plaidoyer, de la sensibilisation, etc. et de la déclaration politique. Et des intrusions dans les réunions internes et publiques de Total ont lieu régulièrement avec des activistes qui brandissent des pancartes. Le blocage de l'Assemblée Générale dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le projet a d'ores et déjà pris du retard. Donc ça veut dire que le coût pour Total augmente. Et plus un projet prend du retard, et moins il est susceptible de se réaliser. Et ça, c'est un exemple de lutte non violente qui n'est pas coordonnée de manière centralisée, qui apparaît un peu partout dans plein de pays, mais qui suit l'objectif de ternir l'image de Total, de mettre face à leurs responsabilités les banques en menaçant de salir leur image et donc en touchant leurs employés, etc. Donc ça, c'est une lutte qui est en cours mais qui a déjà gagné des victoires. Et pour finir, je voulais aussi vous parler de la lutte pour la protection des forêts des femmes indiennes du mouvement Vika, qui est une lutte qui a déjà quelques années, pour illustrer combien la non-violence, les luttes non-violentes sont un chemin. Donc, des habitants ont vu leur forêt menacée par l'exploitation, par son exploitation par une entreprise qui était étrangère, et donc se sont tous ligués contre pour protéger la forêt. Et donc ont empêché les machines, les tronçonneuses qui arrivaient de couper les arbres. Ils ont gagné. La population a gagné. Ensuite, ce sont les hommes qui ont voulu prendre leur scie pour se dire en fait, on va utiliser cette forêt pour gagner de l'argent. Donc les femmes ont dit non, on ne va pas utiliser, que ce soit pour une grande entreprise ou pour vous, c'est pareil, la forêt, c'est la garante de notre survie, on veut la garder. Et donc les femmes, ce sont, elles faisaient des grandes actions, elles enlaçaient les arbres et elles ont réussi à protéger cette forêt. Mais tout au long de la lutte, les femmes qui au début n'étaient pas admises dans le conseil du village ont commencé à prendre leur place dans les conseils du village. Elles sont devenues gardes forestières, protectrices de la forêt. Et donc, une lutte qui au départ, qui part de « on protège la forêt » arrive à un chemin d'émancipation des femmes qui prennent la place qu'elles n'avaient pas auparavant au sein de leur société. C'est pareil, on dit souvent que les luttes qu'on ne gagne pas, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. On gagne dans le monde entier, on gagne des luttes régulièrement. C'est juste que c'est moins intéressant de parler des victoires qu'on obtient grâce à ces luttes aux informations plutôt que de faire les dramas sur tout et n'importe quoi. Je peux en citer quelques victoires, comme l'abandon de nombreux projets inutiles de bétonisation des terres, comme l'abandon de la construction du terminal 4 à Roissy, l'abandon du projet de construction d'Europa City, qui était un centre commercial géant sur les terres de Gonesse, l'abandon de la construction d'une usine Monsanto à Malvinas en Argentine. La population s'est mise à lutter, les femmes se sont allongées devant les machines qui devaient creuser la terre. L'abandon de la construction de plusieurs pipelines au Canada, d'un projet de centre de recherche et de développement de Total Energy en plein milieu du campus de Polytechnique. L'abandon d'un partenariat de Sciences Po avec Total. En Gambie, c'est l'arrêt de l'extension d'une usine chinoise de farine de poisson qui va bénéficier aux femmes transformatrices de la pêche artisanale locale. En fait, je ne peux pas toutes vous les citer parce qu'il y en a des tonnes tout le temps. Et aussi des victoires juridiques, parce que le levier juridique est un levier important aujourd'hui encore, enfin, notamment aujourd'hui, avec la condamnation de l'État français dans le cadre de l'affaire du siècle, hein, condamné pour responsabilité dans le dérèglement climatique pour son inaction. Aux Pays-Bas, c'est Shell qui a été condamné en 2021. La justice lui a ordonné de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et on a des relax de militants climat, parce que donc il y a une augmentation de la criminalisation des activistes climat, mais il y a aussi des relax qui sont prononcés par des juges, dont des relax pour état de nécessité, donc en Suisse, pour des activistes qui étaient rentrés dans des banques pour interpeller Roger Federer sur son sponsor au Crédit Suisse, parce que le Crédit Suisse finance des projets d'énergie fossile. Donc eux, ils ont été relaxés. Bon, après, les procureurs font toujours appel. Et les décrocheurs de portraits ont été aussi une fois relaxés pour état de nécessité. Ce qui a été aussi une grande affaire dans le monde juridique et une grosse victoire politique pour nous. Donc, pour finir, quels sont les ingrédients de la réussite d'une lutte non violente? C'est la capacité à unir les gens. C'est la planification opérationnelle et c'est le respect de la discipline de la non-violence. Et ça, si on le tient et si beaucoup de femmes participent aussi, sont en première ligne, si les mouvements ont à cœur l'égalité des genres, eh bien, ils sont plus à même de massifier leurs mouvements, de réduire l'impact de la répression aussi sur leurs mouvements et d'augmenter les défections dans le camp inverse. Et ça, c'est très important, surtout aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent très mal dans le système. J'aime beaucoup citer Edgar Morin, qui dit que il cite Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ça veut dire que il faut accepter de cheminer sans chemin, de faire le chemin dans le cheminement. La non-violence, c'est un chemin. C'est un chemin, pourquoi ? Parce que on n'a pas la solution qu'on va calquer partout. La solution, c'est nous qui l'avons, c'est nos collectifs, et c'est au regard de notre situation, de notre contexte, qu'on va trouver ce qu'il est bon de faire et comment on peut faire évoluer la société. Je voudrais quand même finir aussi sur un hommage aux femmes iraniennes et au peuple iranien qui aujourd'hui est dans la rue, et parce qu'elles sont une illustration de la force d'une action non violente face à un régime féroce, des femmes qui sortent dans la rue sans voile, qui se coupent les cheveux et qui savent en fait qu'elles risquent de mourir, et beaucoup sont déjà mortes et morts, parce que des hommes aussi. La poétesse Audre Lorde, qui incarnait un féminisme luttant à la fois contre le racisme, le sexisme et les différences de classe et l'homophobie, disait « Je ne suis pas libre tant que n'importe quelle autre femme est privée de sa liberté, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. » Alors aujourd'hui, les femmes qui sont dans la rue et qui crient « Femme, vie, liberté », eh bien c'est c'est un véritable projet politique. C'est une forme de révolution culturelle qui est en train d'essayer de soulever la chape de plomb du patriarcat et qui paye cette liberté de leur vie. Et je trouve que leur courage impressionnant résonne beaucoup avec les mots d'Ogari Kyonan, donc la fondatrice du mouvement libanais que j'ai cité tout à l'heure, qui dit: un être humain libre qui ose faire face à la violence et l'autorité peut changer tout un système. C'est une bonne conclusion pour illustrer la non-violence.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, bien évidemment. On va faire circuler, il y a deux micros qu'on va vous faire circuler, donc... Ouais, n'hésitez pas.
Alors la première question est toujours la plus difficile.
Merci de votre exposé. Vous disiez que vous aviez des méthodes pour favoriser la démocratie, la prise de parole dans les débats. Vous pourriez donner quelques exemples un peu précis ?
Oui, dans les réunions, donc. On envoie les ordres du jour bien en amont pour que les personnes puissent y participer, et on envoie un compte-rendu synthétique et juste après la réunion pour que les personnes puissent suivre. Et au sein de la réunion, il y a une personne qui anime et une personne qui distribue les tours de parole. Quand on est dans des grandes assemblées, on chronomètre les temps de parole des hommes et des femmes, parce que systématiquement les hommes parlent plus et longtemps, enfin prennent plus la parole et longtemps. Et en fait, juste le fait d'annoncer au milieu de la matinée, à midi, le déséquilibre qu'il y a systématiquement, hein, encore, eh bien ça permet de que le groupe s'autorégule, parce que du coup les hommes se disent ah bah peut-être que là peut-être pas besoin de parler, et puis voilà, les femmes se disent bon bah c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé, ça va pas du tout, et donc c'est un bon moyen de réguler ça. Après, on a aussi des techniques qui font que si il y a quatre hommes qui ont demandé la parole et qu'une femme lève la main, on la refait passer avant, ou des gens qui ont beaucoup parlé Et une personne qui n'a pas parlé lève la main, et du coup, pareil, on la fait repasser avant pour distribuer la parole. C'est des méthodes toutes simples, mais qui fonctionnent. Et puis, il y a aussi, voilà, il y a aussi beaucoup de confiance dans le groupe qui est donnée aux personnes qui prennent le mandat de porte-parole, parce que ce n'est pas toujours facile, et donc il y a aussi du soutien à ce niveau-là.
D'autres questions ?
Bonjour. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était plutôt les actions que vous faites de militantisme, comme ce que vous venez de dire sur la parole donnée aux femmes. Ça, je serais très intéressée parce que, bon, j'en ai fait partie aussi à différents niveaux, enfin, à différents niveaux. Que les 343 dont vous avez parlé, parce que je suis une très vieille dame. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ce qui, enfin, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur les violences, bon, énormes, mais les moyens d'action, effectivement, ne sont peut-être pas assez diffusés. C'est peut-être mon opinion, peut-être que je le partage seulement.
Alors, on a aussi décidé d'écrire ce livre. Alors, c'est pas un livre qui résout tout, hein, mais c'était un livre pour les militants et les militantes, notamment de nos mouvements. On a beaucoup de personnes qui arrivent, qui se posent la question de... Alors, quand est-ce que vous allez faire vraiment des choses qui sont efficaces, et quand est-ce qu'on fait des choses un peu violentes ? Et donc ça, c'est une manière de répondre de qu'est-ce qu'on appelle une action violente et une action non violente. Et c'est aussi un appel de pied aux organisations aux autres associations, parce que la plupart des associations utilisent des moyens d'action légaux. Or, la désobéissance civile permet vraiment d'appuyer et d'accélérer les changements. Et ça, c'est un moyen d'action qui est effectivement sous-utilisé. Et je pense aussi parce que la non-violence est un non-sujet dans la société. On n'apprend pas vraiment à l'école les stratégies de lutte non-violente, la culture de la non-violence, etc. On pourrait avoir une vraie éducation à ce niveau-là qui nous permette aussi de nous approprier ces outils. En tout cas, moi, je ne l'ai pas appris à l'école.
Est-ce que vous pensez que les différents mails que l'on reçoit régulièrement de Greenpeace ou d'autres organismes qui nous sollicitent pour signer, pour soutenir des propositions ou justement contre des propositions qui seraient faites qui ne sont pas susceptibles d'être intéressantes ou saines ou positives, tous ces documents par mail que l'on signe, est-ce que ça, il y a réellement derrière une efficacité ? Alors, je sais que Greenpeace en envoie beaucoup pour soutenir des oppositions, mais est-ce que vous avez constaté que ça a réellement un impact ? Moi, j'ai l'impression que oui, mais c'est une impression.
Oui, le nombre a un impact, forcément. Là, on peut citer l'affaire du siècle, hein, 2 millions de personnes qui ont signé le soutien au recours en justice contre l'État pour une action climatique. Ça a marqué les esprits et c'est utile. Bien sûr, c'est pas suffisant. Ça, c'était une action en soi, on va dire, c'est devenu énorme, en fait. Je pense pas qu'ils s'attendaient au départ à avoir autant de succès. Et donc ça a vraiment joué dans justement les prises de conscience. Et oui, si on lance des actions, il y a aussi des seuils à franchir. Si on demande un référendum d'initiative citoyenne, il y a un nombre de personnes dont on a besoin pour que ce soit juste accepté et considéré. Donc En général, on pense les campagnes au niveau de Greenpeace justement dans cet établissement de rapport de force. Donc si on demande aux gens de signer des choses, normalement c'est que c'est utile, oui, effectivement. Mais c'est au sein de, d'une campagne avec d'autres actions, quoi. Ça vient accompagner.
Oui, bonjour. Je voulais vous demander quelle était votre réaction par rapport à. Quelle était votre réaction par rapport, je crois que c'est à Poitiers, ouais, c'est ça, c'est à Poitiers. Vous savez, il y a récemment le préfet donc, a demandé à la maire de Poitiers, une jeune maire écologiste, là, de rembourser des subventions qu'elle avait accordées à une association qui a justement, effectivement, dispensé des formations pour la désobéissance civile et l'action non violente. Et apparemment, ce préfet faisait référence à une loi récente passée par du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, première question. Et puis deuxième question, je ne sais pas si vous avez écouté, c'était ce week-end, donc c'est tout récent, le magazine Interception sur France Inter le dimanche matin. Donc un journaliste a suivi des jeunes qui effectivement menaient des actions de désobéissance civile, notamment là c'était près de Paris, contre un chantier dans une zone forestière. Donc ils s'enchaînaient, etc. Après le journaliste est allé faire parler ces jeunes qui suivaient donc des formations. Et ce qui m'a surpris, c'est que certains semblaient prêts à passer à l'action violente en disant qu'effectivement, bon, on n'y arrivera pas et qu'il va falloir passer à un stade supérieur. Certains ont même parlé d'éco-fascisme, voilà, dans le sens où, d'après eux, les démocraties ne sont pas outillées pour faire face aux enjeux actuels.
Alors pour la première question, oui, donc il s'agissait d'Alternativa Poitiers. Donc Alternativa Poitiers a organisé un village des alternatives, et dans les villages il y a toujours des formations, et donc là une formation, je crois, qui a été donnée par Greenpeace aussi sur la désobéissance civile. Et donc on a réagi avec des communiqués de presse, les avocats se sont mis aussi sur cette affaire. Alors je n'ai pas les derniers tenants et aboutissants, mais bien sûr on ne va pas se laisser faire là-dessus. C'est la loi séparatisme qui a été utilisée comme véhicule pour bâillonner les associations. Alors après, je ne pense pas que la maire de Poitiers accède à cette requête, mais du coup l'affaire est à suivre. En tout cas, on ne va pas laisser ça comme ça. Ensuite, pour le deuxième point, moi, l'écofascisme, ça ne me fait pas du tout rêver, et je ne pense pas que ce soit la solution pour arriver à faire émerger un monde soutenable, enviable. Chacun est libre de choisir ce qu'il a envie de faire. Là, vraiment, on est axé sur la stratégie de lutte non-violente et la non-violence pour ce que nous, on voit comme nécessité de maîtriser l'outil pour qu'il soit plus efficace, pour avoir des militants et des militantes qui sont formés, qui sont déterminés et qui vont plus loin que là où on est actuellement et plus vite. Voilà, je pense que j'ai pas autre chose à dire par rapport à ça. Chacun après choisit ses modes d'action, et nous ce qu'on demande juste, c'est qu'on respecte nous nos modes d'action, parce que il y a déjà eu des débordements, notamment dans une marche pour le climat à Paris, avec l'apparition de Black Bloc, mais du coup c'est tout de suite instrumentalisé par la police qui se déchaîne sur les manifestants et dit bien sûr que c'était que des manifestants violents. Donc c'est juste, on a besoin de mettre en place des cadres, et quand on fait des marches, hein, à Paris on a 600-800 bénévoles, justement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de choses qui se produisent et qui se reproduisent. On a aussi des techniques un peu d'isolement, de s'asseoir par terre pour calmer les choses et pour se dissocier de ce qui est en train de se passer. et pour enjoindre aussi tout le monde à s'asseoir par terre, et du coup ça fait cesser toutes les violences ou tout ce qui est perçu comme violent par le public qui va être repris par les médias, etc. quoi. Merci, bonsoir. Moi j'avais une question par rapport en fait, à ce qui se passe dans la tête des adversaires, enfin, dans le rapport de force, donc vous citiez Total, ou gouvernant et tout ça, mais ça semble un peu évident qu'il y a des enjeux climatiques qui ont des impacts qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi il y a des personnes qui ne... Enfin, il y a quelque chose un peu de l'ordre de la sidération de... Pourquoi ils ne comprennent pas qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils ont une position de domination qu'ils veulent garder? Est-ce que c'est quelque chose de structurel en société? Est-ce que c'est simplement une... Ils le nient, ils ne veulent pas croire et... Est-ce que vous vous posez aussi ce genre de questions? Parce que ça semble quand même important. Il y a comme si... Il y a un espèce de décalage entre ce qui peut sembler évident et ce que... Une incompréhension de leur part. Je ne sais pas. Si vous avez des pistes.
C'est vrai, il faut être dans la tête de ses adversaires. C'est une des règles des luttes. Oui, c'est ça, l'art de la guerre. L'art de la guerre. Oui, c'est... en fait, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a... Il y a quelques études sur le fait que psychologiquement, collectivement, il y a beaucoup de déni par rapport à l'urgence climatique, mais il y a aussi beaucoup de méconnaissance. Et même au sein du milieu journalistique, hein, là, il y a une charte qui vient de sortir avec le Média Vert, notamment une charte qui enjoint les journalistes à se former sur l'urgence climatique. Et donc, il y a beaucoup d'incompréhension sur la complexité des interconnexions entre tout. Dans le livre, on parle de chaîne de déresponsabilisation où, en fait, on a tout le monde a une tâche, agit en silo et on ne fait pas les connexions entre les causes et les causes à effet, entre les différentes parties de, par exemple, quand on parle de la production de... Quand on mange un steak, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. On ne sait pas que ça va jusqu'à la déforestation de la forêt amazonienne pour cultiver du soja, pour nourrir les animaux, et que, à cause de ça, il y a des femmes qui se font violer parce qu'elles sont obligées de travailler pour des fermiers qui ne les respectent pas du tout. Enfin, on peut partir juste d'un steak pour aller jusque-là, en fait. Et là, je passe beaucoup d'étapes. Et la société est faite pour que... en fait, elle tient qu'avec avec des gens bien. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir mal faire. C'est plus, on est enfermé on est des chaînons de la société et on est enfermé dedans. Et après, y a effectivement les ultra riches qui prennent leur jet à tire l'arigot, et là, franchement, je sais pas si j'arrive à me mettre dans la tête de ces personnes-là, quoi. C'est un peu compliqué de répondre là-dessus.
Je voudrais que vous définissiez la différence entre désobéissance civile et désobéissance civique. Juste pour dire, civique, Gandhi, c'était de la désobéissance civique. Les déserteurs, c'était de la désobéissance civique. José Bové, qu'arracher des OGM, c'était de la désobéissance civique. Il en a même écrit un livre pour la désobéissance civique. Et ensuite est apparue la désobéissance civile. Quelle est la différence? Et pourquoi ce terme est apparu en s'opposant à la désobéissance civique?
Alors, je ne pense pas que les deux termes s'opposent. Et en fait, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette question. Je pense que c'est à peu près la même chose. Parce que dans tous les cas, c'est désobéir à des lois parce qu'elles nous paraissent injustes, ou alors désobéir à des lois pour dénoncer une injustice par ailleurs. Donc je vois pas trop la différence. Si quelqu'un a une réponse, n'hésitez pas. Enfin.
Je me permets, oui. Dans un article de 1597, le philosophe Étienne Baliba, qui a pas mal bossé sur ces questions, ouvrait son article sur la distinction que vous proposez entre désobéissance civile et civique. Et la distinction qu'il faisait, héritée de la langue anglaise, c'était de nous faire comprendre que la désobéissance civile se fait au nom de valeurs personnelles, qui peuvent être des croyances sociales, religieuses ou autres. Par exemple, je refuse de porter une arme parce que je suis témoin de Jéhovah. Et la désobéissance civique, je pense que c'est l'esprit de vos engagements, se fait au nom d'un intérêt général, de ce que l'on pense être un intérêt général, la défense du vivant, ou telle cause pour les droits fondamentaux de telle ou telle minorité. Donc civil, ça renverrait plutôt à une affaire de conscience personnelle, civique, ça renverrait plutôt à une action citoyenne.
Étienne Balibar.
Étienne Balibar, c'est un article que vous pouvez retrouver en ligne qui s'intitule « État d'urgence démocratique » qui était paru dans Le Monde en 1997 au moment de l'affaire des... comment dire, de l'église Saint-Bernard qui avait été forcée par les forces de l'ordre là où s'étaient réfugiées des personnes sans papier. Voilà. Au moment des lois de Bray.
Du coup, on a inversé les termes.
Voilà.
Je voulais vous demander, est-ce que l'action non violente n'est pas un moyen efficace pour maintenir et défendre la cohérence entre les buts et les moyens?
Tout à fait. Gandhi disait « la fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la semence ». Et c'est la manière dont on va faire nos actions, la manière dont on va collaborer ensemble pour le faire, qui va déterminer la finalité de nos actions. C'est... voilà, quand on plante une graine de coton, on a du coton. Quand on plante une graine de cactus, on a du cactus. Il pousse un cactus. C'est la même chose. Et c'est pour ça que quand on dit la non-violence nous permet de préfigurer le monde dans lequel on veut vivre, une manière de dire que c'est sur ce chemin de la non-violence qu'on crée le monde qu'on veut voir advenir, mais que... on en a une idée, mais on ne sait pas exactement à quoi il va ressembler, mais c'est nous, en l'abordant de cette manière-là, qui allons le façonner.
Oui, 100% d'accord avec la cohérence entre moyens et buts. Dans votre exposé, il m'a semblé que ce qui est important, en fait, c'est une guerre de communication, c'est-à-dire que l'action, en fait, c'est une action qui vise à être visible, à être vue, des images, des mots, des slogans, des situations. Et l'intérêt de la non-violence, c'est de se montrer plutôt maltraité par le pouvoir que maltraitant le représentant du pouvoir. Hein, donc l'opinion publique va avoir tendance à défendre l'agressé plutôt que s'identifier à l'agresseur. Donc il vaut mieux se montrer gazé, tout ce qu'on veut, plutôt que de balancer des projectiles sur les forces de l'ordre ou sur les élus. Et dans cette guerre de communication, les adversaires, ils ont aussi leurs outils de communication, ils ont aussi les médias, on sait à qui ils appartiennent pour une bonne partie, ils ont aussi leurs propres services de communication externes qui sont chargés d'abreuver les autres médias de tout un tas d'éléments de langage. Et comment vous, en tant que militant non violent, vous arrivez à pousser ces médias justement pour qu'ils diffusent les images qui sont favorables à vos actions plutôt que de celles en disant les vilains écolos, les Khmers verts nous ont encore emmerdés, quoi.
C'est difficile. Il y a 20 ans, 30 ans, quand Greenpeace faisait une action, c'était en pleine page du journal, en une, et ça restait toute la journée. Aujourd'hui, on déroule nos écrans, et puis voilà, on scrolle, et c'est vite parti. C'est à la fois une bataille de communication, parce que... Et là, en fait, à nous de faire les meilleures actions possibles. Quand il y a eu la polémique avec le PSG et le char à voile, Le lendemain, Greenpeace, on amenait un char à voile devant le Parc des Princes. Et ça, ça a extrêmement bien marché. Donc c'est aussi savoir être malin, être réactif à l'actualité et surfer sur les vagues médiatiques qui existent déjà. Ça, c'est parce que dans les stratégies, il faut avoir la vision de ce qu'on veut atteindre, des plans pour dire, voilà, d'ici 6 mois, on fait ça, etc. Mais il faut aussi être vraiment très réactif et malin pour rebondir là où il faut dans l'actualité. Ça, c'est voilà, un moyen de surfer sur la vague. On est un peu des surfeurs comme ça, on surfe. Plus on a une analyse fine et plus on regarde les mouvements sociaux, parce que c'est ça aussi l'objectif. On forme énormément de personnes qui deviennent des coordinateurs, des coordinatrices et qui savent fédérer des gens sur les territoires. Et donc le pari, c'est aussi de dire, plus on va former de personnes et plus le jour où on va voir une vague arriver, un mouvement social énorme, une rupture dans l'histoire, c'est ça qu'on dit, les ruptures dans l'histoire, c'est à ce moment-là qu'il y a des appels d'air et qu'il y a des transformations rapides et massives qui sont possibles. Donc plus on aura de personnes formées dans la non-violence, dans l'action efficace, etc., et plus on pourra capter les colères et cet espace un peu hors temps et volatile vers les actions qui demandent l'égalité, l'équité, un monde soutenable, sobre, etc., plutôt que de laisser ces voix-là aller s'exprimer avec l'extrême droite et les agitateurs d'épouvantail de toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs aussi de la lutte non-violente. Et juste, j'avais une citation pour rebondir sur quand on dit « la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la semence ». C'est Simone Veil qui disait, donc Simone Veil, la philosophe, elle a beaucoup écrit sur plein de choses, mais notamment sur la non-violence. Et elle voulait vraiment vivre ce que les personnes des classes populaires vivaient et ce que les plus pauvres vivaient. Et donc elle s'est engagée dans la guerre d'Espagne. Et elle a vécu vraiment en première ligne dans la guerre d'Espagne. Et ce qu'elle écrivait, c'est « L'atmosphère de meurtre quotidien efface aussitôt le but même de la lutte, car on prend l'habitude de tuer, de ne plus estimer la vie humaine, en contradiction avec le but poursuivi, l'intérêt général. L'habitude de tuer ne peut produire que des meurtriers. » Et ça, c'est une illustration aussi. Bah, après, dans le livre, il y a aussi Massa Kone du Mali qui parle, enfin, dans des personnes qui sont dans des contextes extrêmement violents, qui défendent ça parce qu'il dit, bah, même nous, si nos enfants, enfin, si on commence à être armés dans nos communautés, on va s'entretuer et en fait, on va créer totalement l'inverse de ce qu'on veut vivre, quoi.
J'ai deux remarques à faire là, à propos de ce qu'on vient de dire. La première, c'est sur l'état d'esprit des partisans des industries extractives. J'ai lu récemment un éditorial d'un numéro de 2020 de la revue de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et l'éditorialiste citait deux études sur du matériel, imprimé en économie. Alors, il y avait dans les deux études différentes, il y avait différentes modalités de sélection des revues et des articles. Et en fait, les deux études convergeaient vers le même chiffre. Les articles, disons, de revues académiques qui sont consacrés à économie et écologie représentent 0,1% de la totalité des articles dans les deux études. Et je trouve que c'est intéressant à savoir, parce que ça mesure, ce que vous dites tout à l'heure, le degré d'ignorance des gens qui nous dirigent par rapport à ces problématiques-là et qui vivent dans un monde peut-être parallèle au nôtre. Vous voyez, quand vous parliez des jets privés, bon... Certaines personnes prennent leur jet privé comme nous on prend notre voiture. Alors on ne devrait pas prendre notre voiture, mais eux prennent leur jet privé comme nous on prend notre voiture, exactement de la même façon. Puis la deuxième remarque, c'est sur la désobéissance civile. C'est une question que je me pose ici moi-même. En fait, j'ai entendu parler récemment d'un livre qui s'est écrit. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur, je me souviens de son prénom, c'est Candice. Et elle a publié un livre dans l'année écoulée qui s'appelle La désobéissance incivile. Alors, elle a eu bien du mal à s'expliquer sur ce que ça voulait dire, mais en tout cas, c'était le glissement sémantique civil-incivil. Ça avait l'air de s'accompagner d'un glissement d'une non-violence, comment dire, rigoureuse, vers une certaine forme de violence. Ce qu'on appelle les incivilités, vous voyez, c'est de contrarier. Donc, moi, je pense que le glissement sémantique, il n'est pas neutre. Alors, ceci dit, on pourrait, parce que désobéissance incivique, ce serait un autre sens aussi. Tandis que là, entre passer de civilité à incivilité, c'est quand même, je pense, un glissement vers la violence, en fait. Voilà.
Alors, je ne l'ai pas lu et je ne m'en ai pas entendu parler, mais je regarderai après la conférence. Donc, je ne peux pas... Enfin, merci pour ce partage.
Oui, moi, je me demandais, en fait, on parle d'actions, en fait, qui sont toujours des réactions face à des situations graves. Et quels sont, selon vous, un peu les leviers pour ne pas toujours être un peu en retard par rapport à toutes ces situations globales qu'on voit à l'échelle mondiale?
Je pense qu'il y a à la fois des actions, effectivement, de réaction. On va relancer un programme de réacteurs nucléaires, alors que c'est pas du tout adapté à la situation. On est en réaction à ce que vient de dire le gouvernement. On est déjà en train de... En gros, on est en réaction au fait que la température de la Terre a déjà augmenté de 1,1 degré et qu'on sent déjà les effets. Mais en gros, on peut éviter tout ce qu'il y a après. Donc on peut aussi avoir... Un temps d'avance, en tout cas dans la manière dont on milite, c'est aussi comment est-ce qu'on crée les alternatives concrètes aujourd'hui pour être le plus résilient possible, sachant que ça ne peut pas se faire à l'échelle individuelle, c'est la société entière qu'il faut changer. Donc quand on poursuit un but aujourd'hui, on peut se dire voilà, d'ici à la prochaine, je ne sais pas si c'est l'échéance présidentielle qu'il faut prendre, en fait ça dépend de vous, de votre combat, enfin sur quel niveau vous voulez agir. Quand c'est au niveau local, malheureusement les élections sont vraiment quelque chose. Vous m'expliquez tout à l'heure que en période électorale les maires signent absolument tout mais après ne font rien, donc c'est après réussir aussi à ne pas lâcher. Et en passant notamment à la désobéissance civile pour mettre la pression et pour que ça ait un coût électoral et aussi pour que le plus de monde possible se mobilise, parce qu'en fait les personnes qui sont élues en fait c'est si elles ne font pas les choses qu'elles devraient faire pour l'intérêt général. C'est à la population de transformer, enfin de mettre la pression et pour transformer nous-mêmes en fait notre environnement, la société dans laquelle on vit. Donc c'est une question qui est pas forcément facile, mais en tout cas quand on se donne un objectif, c'est bien de réfléchir à qu'est-ce qui peut arriver, quelles sont toutes les hypothèses qui peuvent arriver, comment notre adversaire peut réagir, mais aussi en même temps être prêt en cas de prêt à réagir aux imprévus, parce que de toute façon un plan c'est toujours bien, mais c'est la vie, ça se déroule souvent autrement quoi. Donc voilà,
moi c'était un peu plus sur votre public, du coup comment vous arrivez à avoir un public avec une sociologie assez large et pas juste un public d'intellectuels. Voilà. Enfin, la conférence c'était très 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 littéraire. Comment vous arrivez à avoir vraiment un public très large et à arriver à capter son attention pour vraiment le former et pas rester sur un public, je caricaturais, je suis en prépa, du coup je connais ça, mais un public pas de centre-ville, de métropole, de grande ville, et arriver à avoir un public très large, mais sans l'infantiliser non plus, être dans une arriver à saisir le bon filon pour capter un peu tout le monde quoi, parce qu'on a besoin de tout le monde quoi, c'est arrivé, et ça c'est vraiment un enjeu quoi. Moi au quotidien c'est du mal à quel schéma prendre pour alerter quoi, et pas juste la Photoshop ou le comment vraiment ces outils-là.
En fait, dans Alternativa, par exemple, les villages des alternatives, ça permet justement d'avoir un public intergénérationnel qui rejoint et qui ensuite mène des actions. La question de comment on parle à Enfin, comment est-ce qu'on agit avec, avec d'autres personnes, d'autres classes sociales, parce que c'est vrai que le mouvement climat est souvent classe éduquée, plus, enfin, on dit CSP+, mais pas tout le monde, quoi, mais plus ces classes-là. En fait, on a au Pays Basque, donc les fondateurs d'Alternativa ont lancé un nouveau mouvement qui s'appelle ALDA et qui travaille avec, au niveau des quartiers populaires. Mais comment est-ce qu'on donne de la voix aux personnes qui n'en ont pas et comment est-ce qu'on parle des réalités de la vie quotidienne pour changer la société. Donc ALDA, ça s'appelle, c'est basé sur une enquête dans les quartiers populaires qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi vos problèmes et le problème c'est le logement au Pays Basque. Il y a des propriétaires qui utilisent Airbnb pour précariser complètement le logement et virer les gens en été pour louer leurs appartements à Airbnb. Et en quelques mois, ils ont eu une victoire énorme, justement, d'une loi qui empêche ces pratiques abusives. Et donc, ALDA, c'est vraiment un mix entre le community organizing de Saul Alinsky, qui était de l'organisation voilà, dans les quartiers, mais par les personnes des quartiers, et la méthode Alternativa, de la méthode d'organisation Alternativa. Et c'est comment, à partir de notre vie quotidienne, on montre que... Parce que là, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que des milliers de logements sont revenus dans le parc locatif, mais en plus des logements qui ont été rénovés pour la location. Donc ça veut dire qu'on évite des hectares bétonnés à l'extérieur pour fabriquer des logements parce qu'il n'y en avait plus. Donc on évite des émissions de gaz à effet de serre et en plus on réduit la précarité sociale parce que les logements ne sont plus des passoires énergétiques. Donc, et en plus on recrée de la vie dans les centres-villes puisque évidemment ces logements-là ils étaient dans le centre de Bayonne. Donc on voit que là, on va chercher un dialogue et on trouve des moyens d'action ensemble pour améliorer la justice climatique et sociale.
Je vais réagir juste sur la question agricole, parce qu'on avait parlé, vous étudiez sur ESTEC, je connais pas mal le milieu agricole, j'ai de la famille qui travaille dans celui-ci, et je le vois, ils sont... la représentation syndicale, c'est des petits agriculteurs voilà, de bouquins sur le bras. Et en fait, il n'y a pas de représentation agricole à leur niveau, pas vraiment, et en fait, ils sont globalement, comme la plupart des petits agriculteurs en France qui ne sont pas de grands industriels, manipulés par la FNSEA. Comment vous arrivez à capter aussi un peu ce public de petits agriculteurs ou après d'agriculteurs aussi qui veulent aller, qui sont sur la voie de la conversion, mais aujourd'hui. Produire du bio, tout ça, c'est un vrai combat politique. Tout l'aspect réglementaire ne les aide pas. Et comment, du coup, vous arrivez à agréger tout ce public-là pour renforcer un peu votre base et que ça aille aussi dans votre sens?
Alors, nous, tout seuls, on n'y arrivera pas, ça, c'est clair. Mais y a beaucoup d'organisations, justement, dans ce domaine-là. Il y a le syndicat, la Confédération Paysanne, il y a Terre de Liens. Et certainement beaucoup d'autres que je ne connais pas. Sur justement ces pratiques-là, il y a un film très puissant qui est sorti, qui s'appelle Goliath, de Frédéric Tellier, qui illustre les ravages de l'agro-industrie dans les milieux agricoles. On ne touche pas tous les publics, ça c'est sûr. On essaye d'élargir le mouvement. Plus on sera nombreux dans toutes les associations à agir ensemble, et plus la transformation se fera d'une manière plus rapide et certainement moins brutale. Mais on fait toujours partie d'une minorité de personnes qui sommes dans l'action. Mais je pense qu'elle va grandir parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de lanceurs et lanceuses d'alerte. On a de plus en plus de gens, comme je disais, qui ne veulent pas travailler pour le système. Et ça, il y a un effet boule de neige. Quand on voit, enfin, les militants voient autour d'eux aussi les regards des proches changer, potentiellement des actions changer. Donc, ce qu'on fait, c'est Gandhi disait, ce que tu fais est dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Les colibris ont repris Gandhi. Mais à l'échelle systémique, en tout cas, ce qui distingue des colibris, c'est que on le fait dans une échelle de changement systémique, parce que vu le temps vu l'urgence climatique et l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a besoin d'un changement systémique et de l'entraîner. Pour l'entraîner, on doit être de plus en plus nombreux et nombreuses pour préserver ce qu'on peut encore préserver aujourd'hui.
Merci Pauline.
Merci beaucoup pour cette intervention. Ce que je vous propose, c'est que vous poursuiviez la discussion entre vous et puis avec Pauline Boyer dans l'autre salle, la petite salle là-bas, où l'association vous offre un petit pot de l'amitié. Donc n'hésitez pas à venir partager ce moment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.